de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de nouvelles aujourd'hui. Nous avons quelques événements à informer entre autres. D'autres pays tentent d'évacuer des citoyens du Soudan après que les États-Unis aient récupéré leur personnel. Ministre de l'Agriculture du G7 condamne la Russie pour l'impact de la guerre sur l'alimentation. Philippines et la Chine travaillent ensemble pour résoudre les problèmes dans la zone maritime de la mer de Chine méridionale. Président Joko Widodo visite des MPME et des visites touristiques à Labuan Bajo avant le sommet de l'ASEAN. États-Unis évacuent près de 100 personnes de l'ambassade du Soudan au milieu des combats. BPOLBF a qualifié la visite de Jokowi à la grotte de Batu Cermin d'événement de promotion du tourisme. Le gouvernement prévoit que le pic du flux inversé commencera le 24 avril. Mon cher directeur, voici les nouvelles en complet. Les États-Unis ont évacué le personnel de leur ambassade du Soudan, mais d'autres pays luttent toujours dans leurs efforts de sauvetage dimanche, alors que les combats entre les deux oppositions ont conduit à une crise humanitaire, a rapporté Reuters dimanche. L'armée soudanaise et les paramilitaires Rapid Relief Force, RSF, s'accusent mutuellement de l'attaque d'un convoi de Français. L'armée soudanaise a également accusé les RSF d'avoir attaqué un convoi qatari. Se dirige vers le port du Soudan. Pendant ce temps, l'Égypte a déclaré, sans fournir plus de détails, qu'un de ses membres servant au Soudan a été blessé par balle. Des émissions de télévision en direct ont montré une épaisse fumée couvrant Khartoum et ses villes voisines, Bahri et Omdurman, ainsi qu'une série de coups de feu à divers endroits. Les ministres de l'Agriculture du G7 ont condamné dimanche la Russie pour la guerre contre l'Ukraine et l'impact du conflit sur la sécurité alimentaire mondiale. Ils ont également convenu d'aider Kiev à relancer l'industrie agricole en partageant leurs connaissances sur le déminage de terres agricoles et la reconstruction de l'infrastructure. Dans un communiqué conjoint lors du sommet de leur réunion de deux jours à Miyazaki, dans le sud-ouest du Japon, les ministres ont également discuté des moyens de lutter contre le changement climatique et la pandémie de COVID-19 parmi les défis auxquels est confronté le système alimentaire mondial. Les ministres du G7 représentant la Grande-Bretagne, le Canada, l'Allemagne, la France, l'Italie, le Japon et les États-Unis ainsi que l'Union européenne ont reconnu que le conflit n'a fait qu'exacerber l'instabilité alimentaire et la perte continue de biodiversité à grande échelle affectant les cultures santé, eau et sol. Les Philippines et la Chine ont promis samedi 22 avril 2023 de travailler ensemble pour résoudre les problèmes dans la zone maritime de la mer Chine méridionale. Les pourparlers entre les ministres des Affaires étrangères des Philippines et de la Chine font partie d'une série de réunions de haut niveau entre les Philippines et les dirigeants des États-Unis et de la Chine, alors que les deux superpuissances se disputent des avantages stratégiques dans l'Indo-Pacifique. Le ministre philippin des Affaires étrangères, Enrique Manalo, lors de l'ouverture des pourparlers avec le ministre chinois des Affaires étrangères, Chin Kang Amani, a déclaré que les relations de Mani avec Pékin étaient plus que les différends des deux parties sur la mer de Chine méridionale. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, Chin, a déclaré que les Philippines et la Chine devaient travailler ensemble pour poursuivre la tradition d'amitié, approfondir la coopération et résoudre les différends en temps opportun. Il a ajouté, la coopération entre les deux contribuera à faire progresser la paix et la stabilité dans la région et dans le monde. Le président indonésien Joko Widodo a passé en revue les temps de préparation des acteurs des MPME et des sites touristiques à Labuan Bajo, Manggarai occidental, Nusa Tenggara oriental, avant le 42e sommet de l'ASEAN qui se tiendra dans moins de 3 semaines. Le chef de l'État est à Labuan Bajo depuis samedi 22 avril et a immédiatement inspecté les installations et les infrastructures qui s'y trouvent. C'était le communiqué de presse reçu par Antara dimanche. Le président, qui était en visite de travail accompagné de la première dame Iriana Jokowi, a ensuite visité plusieurs sites touristiques lors de la 12e journée à Labuan Bajo dimanche. Dimanche matin, le président a invité sa famille à visiter la grotte de Batu Cermin. En plus de visiter les attractions touristiques, le président a également visité un certain nombre des points de vente de micro, petites et moyennes entreprises, MPME, et a acheté plusieurs souvenirs fabriqués par la communauté locale. L'ensemble du personnel du gouvernement américain et plusieurs diplomates d'autres pays ont été évacués de l'ambassade à Khartoum, au Soudan, alors que le pays était secoué par le conflit, ont déclaré des responsables américains cités par Reuters. Près de 100 personnels ont été évacués dans la foulée. Le sous-secrétaire d'État américain à la gestion des eaux sources, John Bass, a déclaré qu'un grand nombre d'employés locaux restaient à Khartoum pour soutenir les opérations de l'ambassade, tandis que Washington a décidé samedi 22 avril de suspendre les opérations en raison de problèmes de sécurité. Baz a déclaré que les États-Unis ne voyaient aucun changement dans la situation sécuritaire dans un proche avenir. L'agence des exécutions de l'autorité de Labuan Bajo, Flores, BPLOBF, a déclaré que la visite du président Joko Widodo et de sa famille à la grotte de Batu Cermin à Labuan Bajo, Manggarai occidental, dans Nusa Tenggara oriental, était un événement régional de promotion touristique. La directrice principale du BPLOBF, Shana Fatina, à Labuan Bajo, a déclaré dimanche que la visite du président Joko Widodo dans cette destination touristique pourrait être un moment de promotion du tourisme régional. Shana espère également qu'après la visite du président, de plus en plus de touristes jetteront un coup d'œil sur ces destinations naturelles et que de nombreux produits de micro, petites et moyennes entreprises seront vendus. Le gouvernement prévoit que le pic du flux de retour de l'Aïd al-Fitri 2023 aura lieu les 24 et 25 avril et les 29 et 30 avril et le 1er mai 2023. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Transports de la République d'Indonésie, Budi Karya Sumadi, après la réunion de coordination pour la préparation du retour de l'Aïd al-Fitri 2023 à Jakarta dimanche. Le ministre des Transports a recommandé aux voyageurs d'éviter de voyager pendant le pic du débit de millilitres ou bien de retour afin d'éviter la possibilité d'une accumulation de véhicules. Il a ajouté que son parti s'était coordonné avec un certain nombre de partis pour intensifier la socialisation concernant la recommandation de voyage. Le ministre coordinateur de développement humain et de la culture, Muhajir Effendi, a ajouté que Jasa Marga SA prévoit que 203 000 véhicules se rendront le 24 et 25 avril 2023 à Jakarta et ses environs. Pour cette raison, il n'est nécessaire de procéder à une socialisation massive afin que les personnes, notamment celles qui ne sont pas pressées, puissent retarder leur horaire de retour afin d'éviter une accumulation de véhicules. Bon, chers auditeurs, c'est tout. Les nouvelles d'aujourd'hui.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire et pour le titre, l'état de l'UNICEF relatif à la confiance en la vaccination. L'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, ont mené une étude sur la confiance dans les avantages de vaccination de routine pour les enfants, comme la diphtérie, la rougeole et la poliomyélite dans 55 pays. Il est confirmé que 48 millions d'enfants dans le monde n'ont pas eu la vaccination contre de ces maladies entre 2019 et 2021. C'est ce qu'a révélé une étude de l'UNICEF publiée jeudi le 20 avril. Selon l'organisation onusienne, cette augmentation est en partie due à la perte de confiance dans les bienfaits de la vaccination, due à la désinformation, à la baisse de confiance dans les experts de la santé et à la polarisation politique. L'UNICEF a mené ses études dans 55 pays. La confiance au bienfait de la vaccination n'a pas changé ou même augmenté seulement en Chine, en Inde et au Mexique, les trois pays les plus peuplés du monde. Pendant ce temps, au Japon, en Corée du Sud, à Ghana et au Sénégal, plus de plus de 30% des gens ne croient pas aux avantages de la vaccination des enfants. Il convient de noter dans cette étude que plus de 80% des personnes dans environ la moitié des pays répondants croient encore à la vaccination des enfants. L'UNICEF a également expliqué que le nombre croissant d'enfants dans les zones de conflit et la perturbation de l'approvisionnement en vaccins en raison de la pandémie de COVID-19 ont également eu un impact sur le nombre croissant d'enfants qui n'ont pas reçu les vaccinations de base comme pour la poliomyélite, l'hépatite B et la rougeole. L'impact du nombre croissant d'enfants non vaccinés est évident. Le nombre d'enfants atteints de poliomyélite entre 2019 et 2021 a été multiplié par 8 par rapport aux 3 années précédentes et le nombre d'enfants atteints de rougeole en 2022 a également doublé. En Indonésie, il existe le thème « vaccination obligatoire » qui fait référence au programme gouvernemental qui fournit gratuitement plusieurs types de vaccins aux enfants jusqu'à une dose complète. Cette vaccination ou immunisation protège les enfants de diverses maladies telles que la poliomyélite, le rougeole, la tuberculose, la diphtérie et l'hépatite B. Par ailleurs, depuis le 14 décembre 2022, la vaccination COVID-19 est également administrée aux enfants de moins de 11 ans. La vaccination peut être continuellement encouragée car elle contribuera à améliorer la santé des enfants qui est l'avenir de la nation et du monde. C'est Zurita, c'était le commentaire pour ce soir.
La voix de l'Indonésie revient à la tenue du Voix International Quiz 2023. Cette année, le quiz international Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie 2023 est sous la forme d'un concours d'écriture. Écrivez un essai sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, d'une longueur de 700 à 800 mots, Arial 12 et 16 enregistrements, dans la forme d'audio, concours de rédaction ouvert du 10 avril au 20 août 2023. Envoyez votre essai et les résultats de l'enregistrement audio par courriel voicquiz2023@gmail.com. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Le gagnant sera annoncé dans le moment 78e journée de radio, le 11 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devenez l'un des gagnants. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement de 24 avril 1955, la clôture de la conférence Asie-Afrique. Chargé tard, la conférence Asie-Afrique, KAA, est une conférence entre pays asiatiques et africains, dont la plupart ont récemment accédé à l'indépendance. Cette réunion a eu lieu du 18 au 24 avril 1955 au palais Merdeka, Bandung, Indonésie, dont le but était de promouvoir la coopération économique et culturelle entre l'Asie et l'Afrique et contre le colonialisme et le néocolonialisme des États-Unis, de l'Union soviétique ou d'autres pays impérialistes. La conférence Asie-Afrique a été parrainée par 5 pays, la Birmanie, l'Inde, l'Indonésie, le Pakistan et Ceylan, et coordonnée par le ministre indonésien des Affaires étrangères, Sunario. La conférence Asie-Afrique implique 24 autres pays d'Asie et d'Afrique. La conférence Asie-Afrique a abouti à un accord sur la forme du communiqué final de la KAA qui contenait Dasasila Bandung. C'est les 10 principes de Bandung. Ces principes sont connus dans le monde sous le nom d'esprit de Bandung. Nous continuons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 24 avril 1967. Le vaisseau spatial Soyuz 1 s'écrasait en Sibérie. Soyuz 1 faisait partie du programme spatial de l'Union soviétique, lancé en orbite le 24 avril 1967 depuis le cosmodrome de Baïkonour. Il était contrôlé par un cosmonaute, le colonel Vladimir Mikhailovich Komarov. Après avoir accompli toutes ses missions, l'avion Soyuz 1 revient sur Terre, mais le faisceau spatial est tombé sur Terre du notaire. La cause de l'écrasement de l'engin spatial était un dysfonctionnement du système de freinage. En conséquence, le faisceau spatial a atterri lourdement sur Terre, tuant Komarov. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec 24 avril 1970. Le premier satellite chinois, Tongfanghong, a été lancé. Tongfanghong 1, également connu sous le nom de Chine 1, était le premier satellite spatial de la République populaire de Chine qui a été lancé avec succès le 24 avril 1970. La Chine 1 a été conçue pour avoir une durée de vie de 20 jours, alors qu'en réalité, il pouvait durer jusqu'à 28 jours. L'objectif principal du satellite Chine 1 était d'effectuer des tests de technologies satellitaires et d'effectuer des évaluations de l'ionosphère et de l'atmosphère. Bon, chers auditeurs, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui.
Saja ini terbaik untuknya. Yang bilang kau harus bisa seperti aku, yang sudah biarlah sudah. Mudah saja bagimu, mudah untukmu. Andai saja cintamu seperti cintaku. Setelah waktu berjalan, kau kembali datang, tanyakan keadaanku. Ku bilang saja untukmu, coba saja.
Voilà la première chanson indonésienne. J'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici mon Indonésie.
Chers auditeurs, pour l'arbitre suivante, voici donc mon Indonésie dont le titre est « L'Indonésie va devenir un pays de destination pour les investissements mondiaux dans le secteur manufacturier ». L'adjoint à la promotion des investissements au ministère indonésien de l'investissement et au conseil de coordination des investissements, Nur Ihwan a déclaré que l'Indonésie pourrait devenir un pays de destination pour les investissements dans le secteur manufacturier mondial à l'heure actuelle. Lors de la session de la conférence Hanover-Messe 2023 à Hanovre en Allemagne, mercredi dernier, 19 avril, il a révélé un certain nombre d'avantages de l'Indonésie, notamment le fait d'être un pays avec la quatrième plus grande population au monde qui peut fournir suffisamment de main-d'œuvre pour les entreprises mondiales. Nur Ihwan, dans un communiqué à Jakarta vendredi 21 avril, a déclaré « En dehors d'une grande population, l'Indonésie est également un bonus démographique avec un âge moyen des travailleurs de 30 ans ». Il a ajouté que l'Indonésie est également un pays de base de production pour le marché international qui contribue à 36% du produit intérieur brut PIB total de l'ASEAN. L'Indonésie est également membre du G20 qui a une résilience et une croissance économique avec un PIB atteignant 1,3 billion de dollars américains ou un PIB par habitant supérieur à 5 000 dollars américains. En outre, l'Indonésie possède également de riches ressources naturelles, y compris pour le développement de l'industrie des véhicules électriques. En 2025, il est prévu qu'au moins 15% du nickel pour l'industrie mondiale des batteries de véhicules électriques proviendra de l'Indonésie. Selon Nur Ihwan, cela montre que l'Indonésie est le bon pays pour devenir une destination mondiale d'investissement dans le secteur manufacturier. Pendant ce temps, le président général de l'Association indonésienne des jeunes industriels, San Iskandar, a déclaré qu'afin de devenir une bonne destination d'investissement, l'Indonésie a préparé des zones industrielles qui répondent aux besoins des investisseurs. Il a déclaré que plus de 100 zones industrielles étaient réparties à travers l'île de Java et en dehors de Java. Les zones industrielles de l'île de Java sont désignées pour les industries de haute technologie et les industries à forte intensité de main-d'œuvre et les industries en aval, alors que les zones industrielles en dehors de Java sont davantage destinées aux industries qui visent à augmenter la valeur ajoutée des produits et industries basées sur les ressources naturelles qui déclenchent un nouveau développement économique. Sani Iskandar a ajouté que les zones industrielles indonésiennes sont soutenues par des infrastructures et des installations de qualité telles que les centrales électriques, l'approvisionnement en gaz industriel, le réseau de technologie de l'information et de la communication, la gestion des déchets, les routes à péage, les lignes de train de marchandises ainsi que les aéroports et les ports. Pour soutenir la mise en œuvre de la quatrième révolution industrielle, l'Indonésie a également développé un parc industriel éco-intelligent qui est équipé d'une infrastructure numérique de haute technologie respectueuse de l'environnement. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
seketika bisu bertaburan aroma tubuhmu, jendela berembun, kamu ada tak berkedip.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.it. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers auditeurs, la cascade de Salowopa est située dans le village de Tonusu, sous-district de Pamona du Nord, la région de Poso, Sulawesi central, à environ 54 km au sud-est de la région de Poso. La cascade Salowopa est également connue sous le nom de toboggan aquatique Salowopa, parce que la cascade de Salowopa a une source des montagnes qui est très claire et glisse du haut de la montagne. La hauteur de la cascade Salowopa est d'environ 25 mètres. Cette cascade traverse 12 niveaux de roches de montagne qui descendent jusqu'au niveau le plus bas qui se termine par une petite rivière dans le village de Liboni. La cascade de Salopa est très claire et propre, de sorte que les rochers qui sont traversés par le flot de la cascade seront vus très clairement. Les escaliers sont en pierre, mais même s'ils ont été exposés à la pluie et sont moussus, ils ne sont pas glissants afin que les visiteurs puissent toujours les utiliser comme accès à d'autres niveaux de la cascade. Les escaliers en pierre peuvent également être utilisés pour prendre des photos. Parfois, entre les cascades apparaît un très bel arc en ciel. À l'attraction touristique de la cascade de Salopa, les touristes peuvent non seulement trouver une faune variée, mais ils peuvent également profiter d'un très beau panorama naturel des forêts tropicales à l'air frais. Chers auditeurs, si vous venez de la ville de Tentena et que vous souhaitez visiter la cascade de Salopa, vous pouvez utiliser les transports en commun ou des véhicules privés, ce qui prend une demi-heure pour se rendre à l'emplacement de la cascade. Après cela, vous pouvez continuer le voyage jusqu'à l'emplacement en marchant d'environ 500 mètres. En effet, le voyage épuise un peu votre énergie. Mais croyez-moi, lorsque vous arriverez sur place et que vous verrez la beauté de la cascade de Salopa, tout sera perdu et remplacé par l'admiration. Si vous prévoyez de visiter l'attraction touristique de la cascade de Salopa et que vous souhaitez passer la nuit, il est recommandé de rester dans la ville de Tentena, car il n'y a pas d'hébergement autour de l'attraction touristique de la cascade de Salopa. Chers auditeurs, c'était notre programme Le Magazine Culturel pour aujourd'hui, intitulé La cascade de Salopa à Sulawesi Central. À demain!
Pernah begini, jantungku berdetak sangat kencang saat ku melihatmu. Wahai elok parasmu, membuatku menjadi gemeteran saat ku memandangmu. Tapi
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voynews.id. Et la rubrique suivante, voici Apprendre l'Indonésien. Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien qui vous présente des phrases et des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est « Pergi ke tempat wisata ». Pergi ke tempat wisata signifie aller au lieu touristique. Vous allez écouter une conversation dont le titre est Makananku pedas. Makananku pedas signifie ma nourriture est épicée. C'est une conversation entre Dev Singh, un touriste indien, et Ketut, le compagnon de voyage de Dev qui travaille comme guide touristique à Yogyakarta. Dev parle de la nourriture romande en utilisant le pronom adjectif.
Bagaimana rasa dodol ini?
Rasanya manis.
Après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Makananku pedas. Makananku pedas signifie ma nourriture est épicée. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez le répéter après moi. Itu. Itu signifie c'est. Bakso. Bakso signifie la boulette de viande. Pesananku. Pesananku signifie ma commande. Itu bakso pesananku. Itu bakso pesananku signifie c'est la boulette de viande, ma commande. Dans cette conversation, vous entendez la phrase Itu bakso pesananku. Itu bakso pesananku signifie c'est la boulette de viande, ma commande. Dans cette phrase, il y a le mot pesananku. Je répète, pesananku signifie ma commande. Cela veut dire pesanan milik aku. Pesanan milik aku signifie cette commande est la mienne. Le mot ku. Ku signifie ma ou mon. Dans le mot pesananku. Pesananku, qui signifie ma commande, est la forme pronom du pronom adjectif à la première personne du singulier aku. Aku signifie je. Dans cette phrase, ku, ku signifie mon ou ma, explique la commande de Dev. Pour exprimer la propriété de quelque chose, vous pouvez utiliser un nom suivi de ku. Je répète, ku signifie mon ou ma, par exemple, pesananku. Pesananku signifie ma commande. Un autre exemple, en plus du pronom adjectif à la première personne du singulier aku, aku signifie je, et la forme pronom ku. Ku signifie mon ou ma, il y a un pronom adjectif à la deuxième personne du singulier, à savoir kamu. Kamu signifie tu et la forme pronom mu. Mu signifie ton ou ta. Écoutons les phrases pour transmettre les pronoms à la deuxième personne du singulier. Kamu. Kamu signifie tu. Makanan kamu pedas. Makanan kamu pedas signifie ta nourriture est épicée. Mu. Mu signifie ton ou ta. Minumanmu manis sekali. Minumanmu manis sekali signifie ta boisson est très sucrée. En plus de aku, je répète, aku signifie je, il existe un autre pronom à la première personne du singulier, à savoir saya. Saya signifie aussi je. Pour exprimer l'appartenance à la première personne dans toutes les situations, tant formelles qu'informelles, vous pouvez utiliser le pronom saya. Saya signifie je. Par exemple, makanan saya pedas. Makanan saya pedas signifie ma nourriture est épicée. Avant de terminer apprendre l'indonésien d'aujourd'hui, écoutons encore une fois la conversation.
Bagaimana rasa dodol ini?
Rasanya manis.
Chers amis, voilà l'émission Apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous en savoir plus sur la langue indonésienne. Nous nous rencontrerons dans la prochaine édition avec les différents sujets. Au revoir.
Just down and hoping, know what I wanna hear from you. When the doubt pulls me under and I need to recover, know what I wanna hear from you. Say, baby, say to me the words that keep me going. Yeah, I know you know them. Say, baby, say to me the words that make me hear. I love the way they feel. You give me some of that sweet, sweet talk. You give me some of that sweet, sweet talk. Say it again, cause I need it. Sounding so good, know you mean it. Some of that sweet, sweet talk to me.
When my conscience breaking, and it's feeling efficient. Know what I wanna hear from you. When the clouds fill the sky up. No one I can rely on. No one I wanna hear from you. Say, baby, say to me the words that keep me going. Yeah, I know you know it. Say, baby, say to me the words that make me hear. I love the way they feel. You give me some of that sweet, sweet talk. You give me some of that sweet, sweet talk. Say it again, cause I need it. Sounding so good, know you mean it. Some of that sweet, sweet talk to me.
Yeah. I'm feeling so stuck, gridlock. Give me some of that, sweet talk. I've been up all night, getting so blue. But here comes you to the rescue. How did you do it? I'm a deadlock. Gotta figure it out, I'ma be like Sherlock. Wait, I don't need to know, you don't need to show. And just keep them words flow.
Oh, love, that sweet talk.
Give me some
babe.
Of that.
Oh, love.
La voix de l'Indonésie revient à la tenue du Voice International Quiz 2023. Cette année, le quiz international Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie 2023 est sous la forme d'un concours d'écriture. Écrivez un essai sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, d'une longueur de 700 à 800 mots, Arial 12 et 16 enregistrements, dans la forme d'audio, concours de rédaction ouvert du 10 avril au 20 août 2023. Envoyez votre essai et les résultats de l'enregistrement audio par courriel voicequiz2023@gmail.com. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Le gagnant sera annoncé dans le moment 78e journée de radio, le 11 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voynews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devenez l'un des gagnants.
Chers auditeurs, voilà la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical. Et je vais vous présenter une chanson keroncong intitulée Bunga Teratai, chantée par Henny Puriandari. Chers auditeurs, cette chanson a été composée par Marjo Kahar. Raconte la beauté de la fleur de lotus. Un type de fleur qui pousse à la surface des eaux calmes, comme les étangs ou les marécages. Dans cette chanson est décrite chaque matin, quand le soleil commence à briller, les fleurs de lotus se balancent, dansant dans l'eau claire. La beauté de la fleur de lotus peut réconforter un cœur triste. Bon, chers auditeurs, voici Henny Puriandari va chanter une chanson intitulée Bunga Teratai. Bonne écoute.
Teratai ku
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Au revoir.